Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Les 16 et 17 décembre prochains, à l'abbaye Boulor a lieu un week-end pour en apprendre plus sur Dieu, l'homme et la femme. Au programme, des topos sur des sujets très actuels, de l'alliance au féminisme, en passant par la PMA ou encore la transsexualité. On en parle aujourd'hui dans votre émission Vivante Église. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Damien Verlet, curé de la paroisse étudiante. Bonjour mon père.
Bonjour.
Et juste à côté de vous, Célia Quintard et Marie Brémard. Vous avez toutes les deux participé au parcours des Sentinelles de l'Invisible. Bonjour.
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 Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour débuter, j'aimerais qu'on s'arrête sur le choix du lieu. L'abbaye de Boulor, dans le Gers. Je pense que tous nos auditeurs connaissent l'abbaye de Boulor, mais pourquoi spécifiquement ce choix du lieu de Boulor? En quoi c'est symbolique?
Eh bien, alors je ne sais pas si c'est symbolique, mais en tout cas, on y est très bien, on y est très bien reçu par des religieuses et, qui sont rayonnantes. Hein, et c'est un lieu aussi où on peut faire un pas de côté par rapport à notre vie ordinaire et vraiment se retirer un peu, hein, d'où l'idée, dans la tradition de l'Église, hein, d'aller se retirer dans les monastères pour réfléchir un peu plus, pour prier et pour se demander en fait qu'est-ce que le bon Dieu peut attendre de nous, quoi, hein, et comment il peut nous conduire en cette vie. Je sais pas, je pense que les filles, vous avez fait une retraite à Boulor dans le cadre de ce parcours Sentinelle. Peut-être que ça vous a particulièrement marqué ou...
À Boulor, en fait, c'est des religieuses qui ont un art d'accueillir qui est assez incroyable et ça rayonne vraiment sur les personnes qui y vont. Donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a choisi ce lieu.
Et puis on trouvait aussi que par rapport au thème du week-end... Elles avaient beaucoup à nous apporter parce que, notamment dans notre parcours des Sentinelles de l'Invisible, on a fait un week-end chez elles sur le thème de la maternité et on a toutes été particulièrement marquées des enseignements qu'elles nous ont donnés dessus, en sachant qu'être mère, aujourd'hui, quand on en parle, on imagine une mère avec un enfant, physiquement parlant. Et en fait, on a vraiment pu réaliser, grâce à elles, qu'il est possible d'être mère et religieuse, en fait. Et donc, ça a collé vachement bien avec le thème du week-end, quoi.
Voilà, il me semble que c'est un des enjeux aussi à Boulor, c'est que ces sœurs nous font découvrir d'autres facettes de la féminité. Souvent, on parlait de féminisme, mais de certains féminismes qui ont l'air d'abîmer un peu la femme ou ce qu'elle est, dans la plénitude de sa vocation. Et donc, ces sœurs de Boulor, au contraire, complètent des idées qu'on peut avoir aujourd'hui ou des visions qui sont partielles souvent, hein, que ce soit de la filiation, que ce soit de la maternité, que ce soit de l'épouse, que ce soit aussi de la beauté, de la recherche de la beauté de la femme. Hein. Moi, je me souviens, un jour, on avait fait une retraite là-bas avec des séminaristes. Et à la fin, un tout jeune séminariste avait dit à la supérieure, quand on vous voyait ce matin au chœur toute chantant, vous étiez belle. Et c'était très beau, il dit ça de manière un peu candide. Et la supérieure a dit, mais écoutez, vous savez, pour nous, nous sommes religieuses, mais c'est très important la beauté. Nous sommes femmes, et donc la recherche de la beauté, ça fait partie aussi de notre vie. Et effectivement, moi j'ai été marqué par cet habit de Boulor où on a l'impression que le beau se diffuse. C'est-à-dire que l'abbaye est magnifique, est bien entretenue, et tous les jardins autour dans le village, et tout le village est magnifique. Et donc je me dis qu'il y a quelque chose, cette recherche de ces religieuses, cette recherche de Dieu qui rayonne autour, quoi.
Vous avez parlé tout à l'heure du parcours des Sentinelles de l'Invisible. Ce week-end, il vient vraiment en feu d'artifice de ce parcours. Est-ce que déjà, justement, vous pouvez nous présenter ce parcours et nous expliquer dans quelle mesure il vous a marqué?
Alors, le parcours des Sentinelles de l'Invisible, ça se déroule en 5 week-ends sur tout le long d'une année pour explorer les thèmes qui font de nous des femmes. On commence par un week-end sur comment chaque femme est fille de Dieu. Un second, comment on est amie et sœur. Un troisième, comment on est épouse. Et ensuite, comment on peut être mère. Et pour finir, reine. Voilà.
Et on est, pour chaque week-end, on va dans une communauté religieuse différente, afin de connaître en fait la richesse des communautés qui existent et d'être enseignée par des religieuses qui sont elles-mêmes enseignées au quotidien sur ces thèmes-là. Et c'est un moyen aussi de découvrir la vie religieuse en dehors de notre quotidien, quand on en entend parler en fait depuis chez nous. Là, on va vraiment à leur rencontre, on va vraiment discuter avec elles. Et c'est aussi un parcours vocationnel qui peut nous permettre de discuter avec elles sur des sujets vocationnels, quoi, si on a des questions à ce sujet-là, quoi.
Pendant tous ces week-ends, on a aussi des témoignages de couples et de laïcs consacrés, ce qui nous fait vraiment réfléchir sur toutes les vocations. Et ça nous permet d'avoir des témoignages de personnes avec qui on n'est pas proche. Donc c'est vraiment pour mettre tout ça en perspective et amener à la réflexion.
Justement, vous disiez, il y a 5 week-ends, vous abordez les différentes dimensions de la femme et du rapport avec Dieu. À titre personnel, qu'est-ce que vous avez appris de ces week-ends et comment vous avez avancé dans votre réflexion vocationnelle ?
Alors en fait, moi j'avoue que quand je suis venue, quand je me suis inscrite à ce week-end, c'était pas dans le but de trouver une réponse par rapport à ma vocation, parce que j'avais déjà ma réponse. Donc ça a été plutôt l'occasion de découvrir la profondeur de la beauté de la femme, en fait, telle que Dieu l'a créée et telle qu'il nous le révèle à travers notre histoire et la parole. Donc ça a creusé en moi, en fait, ce que je suis. Ça m'a permis de descendre plus profondément en moi et de changer aussi certains regards que je peux avoir sur moi.
Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de découvrir à quel point on est aimé de Dieu, tout simplement, en tant que fille de Dieu.
Et dans toutes les dimensions aussi de la vie
d'une femme. Et dans toutes les autres
dimensions,
mais c'est la première à découvrir. Et on peut aussi la découvrir très tard, je pense. Et c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de remettre ça en perspective. Et c'est vraiment, oui, redécouvrir la beauté d'assumer d'être une belle femme, pas physiquement, mais par son cœur, par ses paroles, par son attention, par son caractère, quoi. Tout simplement.
Et découvrir qu'on est un bel homme aussi, c'est pas uniquement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes.
C'est-à-dire que sur le pendant masculin de ces week-ends, parce qu'on a lancé week-end, tu seras un homme, mon fils. Donc week-end, pareil, pour approfondir la réflexion et sur la vocation et sur la masculinité selon le cœur de Dieu. Parce qu'on sait très bien, il y a beaucoup de livres qui sortent un peu sur la masculinité, avec toutes les histoires d'Harvey Weinstein, de Balance ton porc, de MeToo. Et bien en fait, on sent bien que l'homme aujourd'hui est quand même bien attaqué, et à juste titre, parce qu'il y a plein de scandales. Mais en fait, ça ne doit pas interdire aux hommes de se déployer dans leur masculinité et de découvrir en fait qu'est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu. Certainement pas Harvey Weinstein, effectivement, mais quelles sont les vertus à développer pour un homme. Et donc, pour l'homme, on s'appuie un peu plus sur désir de force. Voilà. Il semblerait que, selon certains pédopsychiatres, que les jeunes garçons, vous voyez, qu'on déguise parfois en super-héros, comme dit Thérèse Arago, dans les fêtes d'école, eh bien, ce n'est pas les parents qui les obligent à s'habiller comme ça, mais l'enfant qui arrive devant sa mère avec un tel déguisement, eh bien, sa mère lui dira que tu es fort, mon fils, tu peux sauver le monde. Et alors, moi, en tout cas, ça a beaucoup résonné pour moi, parce que c'est aussi tout l'idéal chevaleresque, et de faire comprendre aux garçons, dans lequel moi je me suis reconnu, un peu flemmard quand on est jeune, qui peut un peu tourner sa vie autour de son nombril, et bien de comprendre qu'il est appelé à déployer une force, pas pour soumettre, pas pour rouler des mécaniques, mais pour sauver le monde, c'est-à-dire pour continuer aussi l'œuvre du Christ, et que cette force est appelée à être mise au service de la veuve et de l'orphelin, dirait-on dans l'idéal chevaleresque. Mais voilà, tous ces super-héros aujourd'hui, les Spider-Man, Batman et autres man, sont tous un peu dans cette résonance de quelqu'un qui déploie sa force au service du salut du monde. Et donc ces week-ends qu'on fait auprès de curés, de paroisses dans la province, et avec aussi des pères de famille, aident les jeunes à découvrir un petit peu peut-être ces appels de Dieu.
Parce qu'on met souvent dans la société en opposition l'homme et la femme, et là l'idée c'est justement d'avoir un autre regard dessus.
Moi j'ai été marqué, les filles, peut-être vous me corrigerez, mais que certaines ont dit en fait on parle souvent de la femme en vis-à-vis de l'homme. Et elles avaient apprécié dans certains week-ends de réfléchir sur la femme, surtout face à Dieu, voyez, et pas toujours face à l'homme, voyez, comme si l'homme ou la femme ne pouvait exister que l'un par rapport à l'autre. Alors bien sûr, ça fait partie du plan de Dieu, coupure de l'humanité entre l'homme et la femme et cette complémentarité, et je suis pas pleinement l'humanité à moi tout seul, j'ai besoin de la femme, mais en tout cas de réfléchir, avant même Hein, ce lien sponsal entre l'homme et la femme, auquel on pense immédiatement dans la société actuelle, comme disait Marie, eh bien, il y a cette dimension fraternelle, hein, de cette fraternité entre l'homme et la femme, et pas directement la sponsalité. Voilà. Et donc, c'est aussi peut-être quelque chose de très beau que ces jeunes chrétiennes et ces jeunes chrétiens peuvent apporter au monde. Hein, c'est une manière d'être en relation d'amitié chaste, homme et femme, et pas immédiatement, pardon, mais des proies ou des targets, comme disent les jeunes, enfin, ou vous voyez, avec une intention derrière d'union et d'union sexuelle, hein, parce que tous les rapports sont hyper érotisés aujourd'hui, et donc on voit bien qu'il y a une bonne nouvelle, en fait, qu'on doit re-annoncer à la jeunesse actuelle. Donc il me semble que ces week-ends participent d'une certaine manière à ça.
Célia Quintard, quel est votre regard là-dessus?
Je pense que la complémentarité, on avait l'idée d'en deçà du mariage, mais elle est aussi au-delà du mariage. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est dans tous les rapports, que ce soit amicaux, professionnels. On en avait aussi parlé, que ce soit entre laïcs et prêtres, sœurs. Je pense que dans tous les échanges, elle y est, du quotidien, parce qu'on apporte des regards différents, une douceur, une force, des convictions qui sont complètement différentes. Et c'est vraiment un équilibre qui peut être amené à avoir de grands fruits dans tous les projets qu'on peut construire et dans tous les échanges. Je pense que chaque chose mériterait d'avoir un regard féminin et un regard masculin pour que ce soit quelque chose qui ait un impact et qui ait des fruits qui soient immenses.
Et pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui selon vous?
Parce qu'on a peur.
De
je pense qu'il faut pas qu'on ait peur d'être pleinement homme et pleinement femme pour que justement on fasse les choses jusqu'au bout. Enfin moi, c'est quelque chose qui me vient en tête.
Et il me semble qu'on voit souvent quand même les choses dans nos réflexions, on a un peu du mal au débat, on a du mal, on a l'impression qu'il y a toujours un antagonisme et une confrontation et un combat. Et moi, c'est aussi pour ça qu'on lance ces week-ends, hein, c'est que j'ai envie de dire que la guerre des sexes ne doit pas avoir lieu. Parce que souvent, quand on voit cette différence, eh bien, on va voir surtout les oppositions et on a du mal à voir la fécondité. Or, c'est dans le plan de Dieu, hein, la fécondité de la différence sexuelle, et pas que simplement au niveau physique, hein, et au niveau du don de la vie humaine, hein, mais aussi au niveau spirituel et au niveau professionnel, comme l'a très bien dit Célia. Je pense qu'il faut sortir de ce « ou », mais « et ». Et, vous voyez, il y a cette dialectique, hein, je crois, hegelienne, il me semble, hein, on est toujours dans une confrontation. Eh bien, nous, comme chrétiens, il y a une ligne de crête où on doit tenir deux versants et qui sont complémentaires et qui nous élèvent. Hein. Et ça, il me semble qu'il y a quelque chose, en tout cas, dans des rapports pacifiés entre hommes et femmes, et entre chrétiens et chrétiennes, il y a quelque chose qu'on peut apporter au monde.
Pourtant, la question de la féminité, de la masculinité, elle est plus que jamais aujourd'hui remise en question. En tant que chrétien, justement, comment arriver à faire passer un message aux autres, aux non-croyants, aux non-chrétiens, qu'il y a un homme, une femme, et que chacun a ses différences, ses similitudes? Quel est votre regard là-dessus?
En fait, on a eu une réunion avec les sœurs de Boulor, là, justement, pour discuter de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était important de passer par l'émerveillement, tout simplement. Je pense que là, le but de ce week-end, ça va être de permettre aux participants de s'émerveiller de ce que nous pouvons recevoir de Dieu sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'est la femme à part entière. Et en fait, quand on passe par l'émerveillement et qu'on se rend compte de la beauté de ce que c'est, on se pose plus de questions, en fait. On se dit, mais on va pas chercher à aller ailleurs, on va pas chercher à être d'autre. Et on n'a pas besoin forcément de donner 10 000 arguments parce qu'on pourrait discuter pendant longtemps. Mmh. Alors que passer par l'émerveillement, en fait, ça atteint directement le cœur et il n'y a pas besoin forcément de mettre beaucoup plus d'arguments derrière ça.
Mmh. Il me semble que oui, c'est un des points. S'émerveiller sur soi aussi, parce que en fait, souvent, les gens qui vivent les choses d'une manière très combative et avec des débats sans fin, qui sont un peu stériles, et c'est surtout ce vers quoi on ne veut pas aller à travers ce week-end, hein, souvent, y a des gens qui sont blessés, quoi. Et donc être blessé dans sa masculinité, dans sa féminité, blessé dans la féminité, moi, ça m'arrive d'entendre des histoires terribles, hein, et des personnes qui ont été abusées parfois, elles ont du mal, hein. Je me souviens d'une personne qui disait je me hais, quoi, je hais mon corps, je me sens pas, voilà. Et donc c'est pouvoir redécouvrir, hein, et ce que les religieuses nous apprennent, quoi, hein, à tourner le regard non pas vers notre nombril ou vers notre blessure, mais vers le Seigneur, hein, lui qui sauve, et lui qui nous dit « tu as du prix à mes yeux et je t'aime », voyez. Et donc là, il y a ce pas de côté qu'on aimerait vraiment que chaque participant puisse faire pour sentir ces appels profonds, au-delà aussi des blessures et ces guérisons d'une certaine manière.
On disait, il faut arriver à s'émerveiller soi-même, mais aussi à s'émerveiller de l'autre côté, de l'autre sexe. Comment on peut faire, justement, tout en gardant un regard qui est sain d'esprit?
Oui.
C'est pas évident, hein, parce que la société nous pousse vers le contraire.
Oui, oui, d'avoir une peur. En fait, moi, j'entends de plus en plus, ou alors une peur qui est diffuse et qu'on peut pas dire, une forme de phobie, quoi. C'est-à-dire qu'une inquiétude. Hein. Et je pense qu'il faut avoir ce courage et cette audace d'aller vers l'autre sexe, vous voyez, hein, non pas simplement à la conquête pour soumettre, hein, je dis ça en tant qu'homme, hein, avec cette vision qu'on peut avoir, hein, de vouloir conquérir des femmes, la figure classique de Don Juan, mais de s'engager, de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre qui est merveille, mais qui est merveille, qui me dépasse complètement, quoi. Voilà, vous savez, quand Dieu crée Ève, eh bien, il tire du côté d'Adam, hein, le côté du cœur, mais surtout quand Adam dort. Et Adam, ça le dépasse complètement, quoi. Et donc Adam face à Ève, mais il est complètement dépassé. Et effectivement, vous savez, parfois, enfin, on voit bien que certaines jeunes femmes ont un peu du mal à se recevoir jusque dans leur corps et à comprendre un petit peu aussi le cycle féminin. Mais alors pour les gars, c'est encore plus quelque chose qui est à la fois merveilleux et terrifiant. Et donc je pense qu'aussi que la femme vis-à-vis de l'homme, et parfois il y a aussi un peu cette tendance aussi à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes filles qui finalement peuvent se dire que finalement c'est plus rassurant d'être avec une jeune fille qui est plus douce, qui est plus gentille, qui fait pas peur, qui est pas brute, qui est pas incompréhensible comme un gars un peu bêta, parce que c'est vrai que parfois, quand on a 19 ans et qu'on est un gars, on n'est pas toujours très fin. Vous voyez ? Et donc, voilà. Et là aussi, il me semble que les générations actuelles ont besoin d'être rassurées en disant oui, mais il y a un mystère, quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui peut faire peur. Mais en fait, avance-pure, quoi. Fonce. Et tu vas voir, il y a une grande fécondité, il y a une grande beauté. Mais il y a quelque chose à conquérir, genre d'une aventure.
Oui, puis je pense que ça passe aussi d'abord par le fait d'être bien construit soi-même. Et justement, c'est pour ça que dans ce week-end, on va commencer par un topo, deux topos pour les hommes et pour les femmes séparément, pour apprendre à se connaître en tant que tel. Et c'est vrai que quand en fait, on apprend à s'émerveiller de ce que l'on est et à se construire vraiment là-dessus, c'est beaucoup plus facile d'accueillir l'autre que quand on est nous-mêmes. Déjà, on se pose des questions sur soi-même, on ne sait pas, on est vraiment blessé. C'est plus difficile d'accueillir quand on n'est pas disposé que quand on est disposé. Et d'apprendre à se connaître, justement, ça dispose à accueillir l'autre.
Et je pense qu'il faut aussi accueillir l'autre selon le regard que Dieu a sur lui aussi. Donc c'est vraiment le voir en tant que, enfin, du côté des femmes, en tant que fils de Dieu, avant de le voir comme un opposé, un contre, un sexe opposé.
Et justement, alors, quel regard porte Dieu sur les hommes et quel regard porte Dieu sur les femmes?
Certainement un regard de compassion et de miséricorde, hein, parce que c'est quand même le cœur de la foi chrétienne. Hein. Et donc le cœur de la foi chrétienne, c'est qu'on a nos misères, quoi, nos petites misères. Hein. Vous voyez, ces week-ends, ça vise aussi à faire découvrir la beauté de la sexualité et de la sexualité dans le réel et pas dans le virtuel, quoi. Hein, et donc c'est aussi un peu la misère de notre époque, hein, où la pornographie est répandue, contribue aussi à cette destruction des rapports hommes-femmes. Et là, il y a quand même quelque chose de terrible, il y a un tabou qui est immense, personne ne veut en parler, mais voilà. Et donc c'est très beau, hein, ce que disait Célia, reconnaître l'autre comme un fils de Dieu, une fille de Dieu, blessé, mais aussi appelé à la sainteté, quoi. Et derrière ça, mais c'est de pouvoir dire, en fait, la noblesse de l'amour... La pureté de l'amour, la chasteté, au sens d'un amour positif et noble, eh bien, c'est possible. Et donc, c'est possible, même si on ne résumera pas le week-end que sur ces questions hein, immédiatement affectives et sexuelles, mais en tout cas, de pouvoir avoir un message très positif sur cette réalité, quoi, de la rencontre de sexes, hein, et dans la beauté notamment du sacrement du mariage, mais aussi dans la beauté de la complémentarité dans d'autres vocations, quoi, hein, que ce soit la vocation consacrée, voilà, le célibat ou autre.
Est-ce que toutes les problématiques qu'on vient de lister ne seraient pas justement un problème de connaissance de soi et de l'autre sexe, avant tout ?
Vous savez, il y a eu un spectacle très connu qui disait les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Hein, et donc on pourrait se dire, c'est un peu une question de connaissance, de communication. Voilà. Mais en fait, nous, on croit que l'homme et la femme, ils viennent de Dieu. Quoi, hein, donc je pense que ce problème, il est issu du fait que notre société se coupe complètement de Dieu, qui est notre créateur, et donc qui nous fait nous reconnaître comme dans notre nature quelque chose de bon, voilà, même si on est blessé. Mais enfin, cette bonté foncière de notre être, hein, et de notre personne, homme ou femme. Et voilà, il montre en exergue certains problèmes qu'une infime partie de la population peut avoir, hein, par rapport à son corps, en se reconnaissant pas dans son sexe, hein, ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Mais aujourd'hui, tout ça est toujours monté en épingle et on montre toujours ça. Donc, parfois, il me semble, hein, moi, c'est la première chose que j'essaie de faire quand j'accompagne des jeunes qui sont bien embêtés par ces questions-là, dire mais en fait, détourne un peu ton regard, lève les yeux vers le ciel, quoi, lève les yeux vers le Seigneur, et tu verras finalement, peut-être la plus grande question, c'est pas de te dire est-ce que je suis homme ou femme, finalement je me reconnaîtrais plutôt dans votre sexe, mais dire mais en fait, est-ce que je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Et donc là, il y a une réconciliation avec soi-même qui est en train de se réaliser, et c'est ce que notre Seigneur a réalisé, je pense, et c'est ce que chaque personne doit découvrir.
On a aussi la problématique actuelle, c'est qu'on nous apprend à déconstruire ce que l'on est, ce qu'on reçoit du Seigneur. Et donc je pense qu'il faut vraiment relégitimer ce que c'est la féminité et la masculinité en tant que telle, et pas comme quelque chose de toxique qu'il faudrait complètement déconstruire.
Alors, je voulais juste dire un truc, c'est qu'on ne leur a pas pensé à la paroisse étudiante.
Oui, hein. Oui, non, pardon.
On leur a pensé plutôt dans certaines études, ou des choses comme ça.
On les apprend autour de nous, dans la société, par les réseaux sociaux, par certains cours qu'on peut recevoir, dans certaines formations. Enfin, c'est assez flagrant, et c'est vraiment un combat, très souvent, de mettre ça de côté et de revoir d'où on vient de Dieu et comment il nous a légué tout ce cadeau que c'est que d'être homme ou que c'est d'être femme.
Vous disiez, la société fait tout pour nous couper de Dieu. Pourquoi, selon vous ?
C'est des traces du péché originel, hein, mais le péché originel, c'est ça, c'est de couper du Seigneur. Hein, donc voilà. Et notre société, à l'heure actuelle, veut s'éloigner peu à peu de ses racines chrétiennes, parce qu'on déconstruit. Hein, c'est très à la mode de déconstruire, de vouloir une société éveillée, woke, où finalement, tout ce qui s'est fait dans le passé, c'était des gens qui étaient des fous, et puis aujourd'hui, on est bien plus éveillés que les autres. Ce qui me fait un peu rire quand on voit l'état actuel de notre monde, où notre société qui parfois, effectivement, ne veut plus de référence chrétienne, ne plus de référence au salut, le fait que Jésus soit venu guérir l'humanité blessée. Et donc ça, dans toute la culture contemporaine, post-chrétienne, on n'entend plus aucune référence. Vous voyez, quand on entend par exemple qu'à Noël, c'est la fête de la créativité et non pas la fête de la nativité, on a envie de rigoler un peu, quoi. Voilà. Mais donc il y a ce climat-là, quoi, cette ambiance-là, de déconstruction.
Oh. présence dans le Comminges 94.1.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
J'aimerais qu'on revienne sur ce week-end. Je rappelle les dates, 16-17 décembre à l'abbaye de Boulor. Marie Brémard, vous disiez, on commence ce week-end avec un topo sur l'homme, sur la femme, chacun de son côté. Ensuite, comment on va avancer justement? Quels sont les autres topos qui sont prévus et le programme?
Alors, j'ai pas exactement le programme sous les yeux, mais justement à la suite de ces topos séparés de la femme pour la femme, l'homme pour l'homme, et bien on va inverser pour pouvoir justement découvrir en tant que femme qui est l'homme, en tant que homme qui est la femme. Donc, ouais, justement, et ça vient après, après qu'on ait appris à se connaître soi, on va apprendre à connaître l'autre. Donc c'est vraiment cette pédagogie-là. Et alors ensuite.
Et si je puis me permettre, en fait, on essaye de croiser les choses. C'est-à-dire que par exemple, c'est une religieuse qui va parler en premier des femmes aux hommes. Et en disant ce que, avec les sœurs aussi, parce que c'est là-dedans hein, que les choses peuvent ressortir, il peut y avoir une discussion qui puisse faire avancer, hein, faire un pas de côté ou un pas en avant dans sa vocation. Et puis l'après-midi, le lendemain, on prendra un peu plus hein, des sujets qui sont parfois épineux à l'heure actuelle et auxquels ces jeunes sont toujours confrontés. Mais voilà, le but c'est de mettre un peu les fondations, la journée du samedi je crois les filles. Hein.
En fait on va, je pense, plus axer la journée du samedi sur la complémentarité fraternelle. Et oui, la journée du dimanche, on va davantage parler de l'alliance, donc de l'alliance entre l'homme et la femme et Dieu, et ensuite entre l'homme et la femme, justement, dans le mariage.
Je me tourne vers vous, Célia et Marie. On va anticiper ce week-end du 16-17 décembre à l'abbaye de Boulor. En tant que femme, qu'est-ce que vous aimeriez que les hommes sachent de vous?
J'ai discuté un petit peu de ça avec une sœur dominicaine. Et justement, ce qui m'a marqué dans ce qu'elle me disait, c'est que aujourd'hui, on est des femmes très indépendantes. On se revendique très indépendantes des hommes. Et elle me disait, mais en fait, des fois, ça fait peur aux hommes parce qu'ils se disent, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter, en fait. Et elle me dit, mais en fait, c'est super important de leur laisser la place qu'ils ont à avoir face à nous. Et du coup, peut-être avoir envie de leur dire, ben, on a besoin de Dieu d'abord, on a aussi besoin de vous en fait. Et quand bien même on sait être indépendante, on le sera jamais complètement et on a besoin de dépendre de Dieu et de dépendre en partie de l'homme. On a besoin l'un de l'autre et de s'appuyer sur l'autre en fait.
Et je dirais même que ça peut être une dépendance qui est saine. Voilà.
Mon père, on fait l'exercice dans l'autre sens. Qu'est-ce que en tant qu'homme, alors, je vais pas m'inclure dedans. Hein. Vous aimeriez que les femmes sachent de vous?
Alors, pas de moi personnellement. Hein,
oui, on l'aura compris.
En fait, il me semble, je sais pas, que derrière tout homme, il y a eu le fils d'une mère qui a entendu des paroles encourageant de sa mère, mais aussi de son père, des paroles de bénédiction qui a dit tu peux, voilà, tu peux te déployer, tu peux t'engager dans ce monde, tu peux, voilà. Et parfois en fait nous blessés, parce qu'on n'a pas tellement le regard de Dieu le Père, hein, qui est un regard de bienveillance et qui veut nous faire sortir de nous-mêmes pour nous déployer pleinement, eh bien on peut être un peu refermé sur soi. Et je pense que c'est un regard d'admiration. Pardon, hein, ça peut sembler un peu voilà, quémander l'admiration des femmes ou quoi que ce soit. Et il y a quelque chose qui ne serait pas juste. Hein, vous voyez, le don Juan qui quémande ça d'une manière malsaine et qui ne va pas se donner. Mais en même temps, le regard d'une amie, vous voyez, ou d'une mère ou d'une sœur, selon l'âge par rapport de l'homme à qui vous parlez, eh bien, me semble fondamental. Moi, aujourd'hui, je suis prêtre. J'avoue que parfois, discuter dans des communautés religieuses, vous voyez, avec des mères spirituelles, d'une certaine manière, donne du baume au cœur et donne des paroles de bénédiction qui me donnent des ailes. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, pour les gars, hein, pour les petits gars qui ont besoin de ça, quoi, hein, pour se déployer, pour dire, mais en fait, t'es capable, tu peux te donner, tu peux te donner. Et voilà. Donc, je pense, là, il y a quelque chose qui se joue. Et puis, voilà, moi, je n'ai pas peur de dire que si j'ai la foi, c'est grâce à ma mère et grâce à une amie. Hein, qui m'était cher, et j'aime bien dire de temps en temps que Adam il rencontre Dieu dans les yeux d'Ève, quoi, hein. parce qu'il y a quelque chose un peu chez Ève où elle est plus spontanément tournée vers Dieu, elle est plus spirituelle. Ça reste dans la mémoire, quoi. Adam découvre Dieu dans les yeux d'Ève. Pas toujours, hein, mais quand même souvent, mesdames, vous êtes quand même très importante, très impressionnante pour votre capacité à transmettre la foi, à transmettre en fait l'amour de Dieu, quoi.
On le disait, le dimanche sera vraiment consacré à toutes les questions d'alliance, le corps de la femme, le patriarcat, la PMA, la GPA, la transsexualité. Comment justement arriver à aborder ces thématiques sans braquer peut-être certains participants qui pourraient avoir ces questions légitimes ou peut-être véhiculées par la société?
Ouais. Bon, on vous le dira après le week-end si on y a réussi. Vous avez des bonnes questions, quoi.
Qu'on a pris le parti de prendre des supports, de partir sur un film, sur des œuvres, pour pas tout de suite donner des contre-arguments qui pourraient être choquants et qui feraient vraiment comme si on était à un débat sur un ring de boxe, plutôt de prendre un chemin un peu dérivé.
Oui.
Voilà.
Oui, puis le but, c'est pas, là, ça va pas être d'argumenter ni de contre-argumenter, mais vraiment de permettre l'émerveillement. On va partir de la source, en fait. On va juste révéler ce que nous croyons être la vérité, et de façon à ce que chacun puisse s'émerveiller de cette vérité-là. Et il n'y a pas besoin d'argumenter face à ça.
Mmh. Oui, tout à fait.
Ce week-end, il est à destination de qui ?
Eh bien, je réponds parce que enfin, c'est quelque chose qui a germé aussi devant la diversité des étudiants qui arrivent aujourd'hui pour demander le baptême. Et ça nous a semblé intéressant, hein, de proposer à certains jeunes qui n'ont pas du tout baigné dans une culture chrétienne, mais qui au contraire sont dans une culture complètement déconstruite en permanence, de pouvoir entendre quelque chose en faisant un pas de côté, en étant dans un climat qui est plein de bienveillance, celui de cette abbaye de Boulor. Et il me semble aussi pour nous comme chrétiens, pour moi comme prêtre, mais aussi pour vous, je pense, les filles, hein, c'est d'être capable de trouver ce juste ton, hein, dans la transmission de la révélation divine. Tout homme a soif de Dieu, voyez. Mais en fait, parfois, on peut être terriblement maladroit et faire fuir les gens. Mais moi, je suis persuadé que voilà, et je cherche encore, parce que c'est arrivé effectivement dans le catéchuménat d'avoir des jeunes, eh bien, qui décidaient de changer de sexe ou des choses comme ça. Bah voilà, c'est très difficile dans l'accompagnement d'aider ces jeunes à prendre du recul, à pas être dans l'immédiateté, à essayer d'écouter le Seigneur, voilà. Et donc moi, c'est ce que je cherche aussi à travers ce week-end-là, hein, c'est pouvoir proposer à des jeunes qui sont très loin de la foi chrétienne, mais qui ont une soif de Dieu immense, et bien découvrir que le fait de se tourner vers le Seigneur, eh bien, il y a une dimension existentielle, c'est-à-dire que j'engage ma vie, quoi, comme Saint-Pierre a engagé sa vie, vous voyez, hein, à la suite du Christ, hein, quand le Christ l'a appelé. Eh bien aussi, des jeunes qui parfois sont dans l'esprit du monde, l'esprit du moment, eh bien, en fait, qu'il y a une conversion des mœurs, comme on dit, hein, dans le catéchuménat, hein, quelque chose qui change un peu, parce que finalement, je vais faire confiance au Seigneur. Je vais mettre dans une optique de confiance, et lui, qui est mon sauveur, mais aussi qui est mon créateur, donc qui a mis des choses en moi, physiquement, psychologiquement, et qui sont pas figées, vous voyez, mais qui sont appelés à se déployer.
Et comment justement arriver à convaincre ces non-chrétiens de faire un pas de côté pour se poser ces questions existentielles ?
Enfin, pardon, mais j'aime pas tellement le mot convaincre. Je crois juste que c'est le Seigneur qui touche les cœurs, et puis nous, on peut voilà, simplement proposer. Voilà. Jésus n'a pas cherché à convaincre les gens.
Proposer.
Bah oui, c'est ça, très simplement. Et donc proposer, voilà, on fait un petit WhatsApp, on va l'envoyer à quelques personnes en disant mais tiens, voilà. Et puis c'est aussi dire à des gens qui connaissent pas trop, on propose une retraite. Tu sais, Thibaut InShape est allé chez les sœurs de Boulor, voilà, hein, tout le monde connaît Thibaut InShape chez les jeunes, voilà, c'est l'accroche, vous avez gagné. Et effectivement dire bah vous aussi faites un pas de côté. Et effectivement moi j'ai vu des jeunes catéchumènes ouvrir les yeux grands ouverts, pas simplement sur le thème, hein, hommes et femmes sur le cœur de Dieu, mais sur le fait d'aller dans une abbaye pour une retraite. Ça aujourd'hui ça parle à tout le monde, je crois.
Puis je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les jeunes aujourd'hui se posent des questions et ils n'attendent que ça, ils n'attendent que des propositions. On ne va pas les convaincre du tout, en fait. Ça, je pense que ça vient presque d'eux, en fait.
Il faut simplement proposer et ils disposent.
Voilà.
D'un point de vue très pratique, début à quelle heure de ce week-end ? Ça se termine à quelle heure ? Rendez-vous où ? Donnez-nous toutes les informations pratiques. Est-ce qu'on dort sur place ? Est-ce qu'on mange sur place ?
On va avoir deux journées bien complètes et alors on va dormir sur place en effet, on a juste besoin de sacs de couchage, on a les lits et l'arrivée est prévue à 8h45 pour commencer avec la messe à 9h et retour à Toulouse, donc départ de Toulouse vers Boulogne, retour à Toulouse le lendemain soir à 18h. Et on continuera en fait avec la messe étudiante à la Dorade à 19h.
Pour mettre un peu en pratique, c'est-à-dire qu'on va aussi un peu chanter pendant ce week-end, parce que les Sœurs de Boulogne sont très fortes dans le chant. Mmh. Et il me semble aussi que dans le chant liturgique, eh bien, il y a quelque chose de la beauté de cette complémentarité homme-femme hein, qui résonne et qui se vit très concrètement quand il y a deux cœurs, hommes et femmes, qui se correspondent et qui se répondent. Donc voilà, le week-end sera terminé par cette animation de la messe.
Le tarif du week-end est fixé à 28 euros. Comment on peut s'inscrire ?
Eh bien, par un Google Form ou sur Instagram de la paroisse étudiante, il y a effectivement voilà, une publicité. Et puis, bah, ce qu'on dit, hein, c'est que 28 euros, c'est peu de choses par rapport à l'accueil qu'on va recevoir et tous les intervenants et tout ça. Mais voilà, si les personnes ont des difficultés financières, eh bien, bien sûr, on les aide. C'est destiné aux jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Hein. Voilà.
Ouais, donc, si on veut s'inscrire, on peut envoyer un mail à Isha Boulor, donc I-S-H-A Boulor, B-O-U-L-A-U-R. @gmail.com.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci
aussi. À vous. Merci à vous pour l'accueil.
C'est la fin de cette émission Vivante Église. Je vous rappelle les dates de ce week-end à Boulogne, 16 et 17 décembre. Dépêchez-vous de vous inscrire parce que les inscriptions se terminent rapidement. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.